on n'était pas en direct et c'est des choses qui arrivent quand tu perds le temps, et le temps c'est quelque chose de précieux. The Round de Inspecteur Clouseau sur les ondes de la radio HDR et le principe actif, c'est parti.
Second day coming on, let me take your hands, you will understand the cold sun and the bright sun, flowers and again. Sun, who knows you sometimes. say goodbye to you, my friend. Hide your shots, my friend.
Inspector Clouseau, donc voilà, que vous allez découvrir sur scène. Et Madame Itchati, donc voilà, a collecté quelques infos pour préciser.
Alors, ce morceau que vous venez d'entendre, c'est de Inspector Clouseau, un groupe de rock qui sera en concert au 106 ce mercredi à partir de 20h. C'est un concert en acoustique à l'occasion de présenter leur album We the People of the Soil. Allez assister à leur concert, les tarifs sont à partir de 22€ à 13€. Et pour ce même mercredi, l'Armetière propose une rencontre avec Michel Perrault à partir de 18h. À cette occasion, elle va présenter son nouvel ouvrage, Les Chemins des Femmes. C'est gratuit. Entrée libre, il vous suffit juste de vous inscrire sur le site wizeven.com. Et pour finir, les VG Pirates, chants de marins, seront en concert le 28 février au Café Perdu. À partir de 19h, c'est pas gratuit.
C'est pas gratuit.
C'est
prix libre, bien sûr, prix libre. Vous donnez ce que vous voulez, donc dans le chapeau qui circulera, voilà, pour les aider peut-être à financer leur groupe. En tout cas, donc c'est un groupe de chants de marins qu'on a eu le plaisir de recevoir à mes grands débuts au Blabla Mix, mon cher Ousmane.
Oui, c'est ça.
Et bien sûr, voilà, donc voilà. Et l'info est précise et claire. Nous sommes avec Lily, donc bonsoir. Voilà, qui fait son baptême de feu. En tout cas, c'est cool. Alors, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que t'as trouvé d'abord?
Je vais parler de l'exposition So British.
Ah, par Monsieur Pinault.
Oui.
Et ben voilà.
C'est au Musée des Beaux-Arts à Rouen du 3 février au 11 mai 2020. À partir de 10h jusqu'à 18h, l'entrée est gratuite. C'est un partenariat avec la collection Pinault en faveur de l'art contemporain. La collection du milliardaire François Pinault a été créée il y a près de 30 ans et est maintenant abritée dans le monument historique, la Bourse du Commerce au cœur de Paris. 10 œuvres d'art y seront présentées à Rouen.
Alors, t'as fait ton choix, t'irais le voir, t'irais voir ça,
bah,
à l'exposition? Ouais, pourquoi pas. Damien?
Bah écoute, moi je te dirais que l'art contemporain, de prime abord, c'est pas forcément mon truc, mais en même temps, je pense que dans l'art, quand on s'intéresse aux choses qui nous paraissent un petit peu spéciales de prime abord, bah c'est là qu'on découvre aussi, c'est peut-être là qu'on peut avoir la claque, la rencontre avec un certain type d'art. En tout cas, bon, j'avais été voir l'exposition Marcel Duchamp l'an dernier, je n'ai pas été saisi par les urinoirs et autres jeux de mots, bien sûr, mais après, à chacun son goût, j'ai envie.
L'art est comme toutes les choses, tous les goûts sont dans la nature. Et moi, je vous parle de la journée porte ouverte, Léo t'enchante, donc la salle Louis Jouvet, samedi 8 février, donc on vous accueille de 10h à 16h. C'est gratuit cette fois, c'est sûr. Et donc voilà, qu'est-ce que vous allez découvrir de 10h à midi? Vous allez découvrir des instruments de chant et de musique du monde avec Philippe Gibault et Amélia Fagar, que nous avons l'habitude de la recevoir ici. Et les musiciens du Galaor, donc voilà, sont des invités. Et quoi d'autre? Donc de 12h30 à 13h30, donc c'est le repas partagé, et de 13h30 à 14h, donc sieste musicale, est-ce que nous allons faire de la sieste en écoutant de la musique, ou nous allons faire de la musique en faisant de la sieste? Alors moi, pour se répondre à cette curieuse question, moi je vous conseille d'aller directement là-bas et de pratiquer et venir nous en parler, pourquoi pas.
Oui, tout à fait, pour cet événement, les hautes enchantes, finalement on n'a pas besoin d'apporter d'argent, par contre ce qu'on peut apporter, eh bien, c'est ses propres plats, des plats préparés par soi-même, alors des plats français, des plats de partout dans le monde. Et puis pareillement, donc pour tout ce qui est chant du monde et danse du monde, eh bien, vous venez vous-même avec les danses que vous connaissez, que vous avez peut-être apportées de votre pays, de votre région, de votre village, que vous avez inventé vous-même. Et puis voilà, c'est de la culture qu'on partage tous ensemble. C'est un peu le mix des cultures en action directe, mon cher Ousmane.
Effectivement, nous on est là, donc voilà, on fait ça depuis 20 ans, mais voilà, mais on les accueille aussi. Et puis voilà, donc je peux finir. Et de 14h à 15h, il y a Atelier de chant du monde, bah, comme Damien vient de le dire. Donc venez avec tous vos savoir-faire en matière de chant et de danse, voilà, partagez ça avec les gens. Et puis voilà, de 15h à 16h, c'est Danse du Monde. Donc voilà, c'est assuré par l'Étincelle et la salle du V ici, par Marine Nativelle, qui vous reçoit et sert bien le café. Et puis voilà, pour les sorties culturelles, j'imagine que c'est bon.
Eh bien non, puisque moi-même je viens avec ma petite sortie culturelle, mon cher Ousmane. Tout à l'heure, l'ami Inchati nous parle un petit peu de la cause des femmes. Toi, tu nous parles du mix des cultures. Eh bien, on peut mélanger les deux. Donc, puisque le club de karaté de Barentin, donc, organise un stage au profit du CIDFF. Alors c'est quoi ? Eh bien c'est le Centre Information sur le Droit des Femmes et des Familles. Ça se passe le dimanche 16 février, donc le Karaté Club de Barentin, de 9h à 17h, vous entrez avec un don, donc un peu entrée libre, hein, si j'ai bien compris, comme un petit peu pour l'événement que, dont Inchati nous parlait, donc le concert de Vigipirate, avec bien sûr sandwich et boissons prévus pour tous, ça, ça fait plaisir. Ce sera à la salle Pierre de Coubertin, au 13 rue Jean Jaurès à Barentin. Et donc pour plus d'informations, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse karatéclubbarentin@gmail.com, karatéclubbarentin@gmail.com.
Il faut y aller avec ses kimonos et ses ceintures.
Honnêtement, je ne pense pas. Je pense vous présenter. Voilà, c'est aussi une façon de, comment dire, de rendre un peu ludique aussi la lutte, comment dire, pour l'enseignement de l'autodéfense aussi pour les femmes dans une époque qui met en avant différentes problématiques de harcèlement et autres manquements à l'éthique, si je puis dire. Donc voilà, ça peut être très intéressant. C'est en partenariat également avec le Crédit Mutuel de la ville de Barentin, et bien sûr le CIDFF et puis le Karaté Club de Barentin.
Merci Damien. Alors je vous propose de découvrir ou de redécouvrir La Savès Day in Shanghai, qui est un morceau, bah, je sais pas, peut-être qu'il parle de la mort en Shanghai, j'en sais rien. Mais voilà, c'est un groupe qui vient du Toulouse et que vous avez peut-être l'habitude de le découvrir ici sur les ondes de la radio. Je sais que nous avons parlé d'eux parce qu'ils étaient déjà venus l'année dernière ici au 106, et vous allez les découvrir le 6 février sur les scènes du 106, et en attendant, bah, découvrez-les sur les ondes de la radio HTR, le principe actif. C'est parti. Hands tied above your head. You untie them when the lights are red. Cool down in wandering hell. Don't turn around. And now you want to deal with sweet summons. And now they're trying to do is keep you quiet and small. bonne pop et de la pop folle dingue et transgressive. Donc voilà, comme diraient les en rock. Donc j'ai été fouillé sur internet, j'ai trouvé ça. Les quatre Toulousiens, donc voilà, ils sont affamés. Et moi je vous dis, allez voir la résurrection musclée. Donc voilà, de ce groupe, voilà, qui va vous enchanter. Plein de couleurs dans le clip, dans les paroles, dans la musique. C'est vivant, c'est authentique et d'actualité. Et puis voilà, Lily, donc elle a aussi concocté une petite sortie pour vous. Et on parlait de sortie et c'est pas fini.
Et oui, on l'a oublié, indigne que nous sommes.
Je vais parler de Marie Petit Neveu. Marie-Claire Neveu, c'est une comédienne rouennaise qui va présenter son spectacle Nina, des tomates et des bombes au théâtre à l'Ouest, à Rouen, le jeudi 12 mars 2020. À 20h, le tarif est compris entre 16 et 20 euros. Nina vous embarquera autour du monde et en parlant d'écologie, d'actualité, etc. Tout avec beaucoup d'humour.
Bien envoyé, bien envoyé. En tout cas, juste comment tu le vends, j'irai le voir, juste pour ça. Et donc voilà, je vous parlais de la tournée entrepreneuriat donc, pour tous. Est-ce que la tournée entrepreneuriat pour tous, ça vous dit quelque chose?
Bah écoute, j'imagine que ça correspond à l'ère du temps où on met en avant l'entrepreneuriat, mon cher Ousmane, mais je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça.
Mais pour tous? C'est comme si c'était réservé à une catégorie, maintenant on l'ouvre à d'autres.
Ah bah, l'entrepreneuriat, tout le monde peut le faire. Tu vois, récemment, on recevait, je crois, Samy Bouguerne, pour qui c'est une cause essentielle aussi de rappeler que même les gars déodorants, bon, les gars et les filles d'ailleurs, peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat et que l'innovation n'a pas d'origine sociale exclusive.
Effectivement, et aussi, il n'est pas seulement réservé aux hommes. Je crois que c'est ça l'essentiel du message que M. Samy et tous les intervenants donc, voilà, voulaient faire passer. C'est ouvert à tous, à toutes. Et donc voilà, et Samy était là et M. Camara aussi. Donc, voilà, qui avait réussi à inventer un prothèse tibia pour les footballeurs connectés. Et voilà, ils étaient là. Et on a rencontré beaucoup de monde qui nous parlait de leur action concrète au quotidien. Je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour diffuser tout ça. Mais j'ai sélectionné quelques passages pour vous. Découvrons M. Samir et M. Camara. M. Camara, bonjour.
Bonjour.
Alors, présentez-vous pour nos auditeurs qui vous découvrent.
Alors, je m'appelle Bakary Camara, j'ai 44 ans, je suis cofondateur d'une petite start-up qui s'appelle VBCam, et donc qui conçoit et distribue des protèges tibia pour les footballeurs. Donc, en l'occurrence, là, on est sur une innovation par laquelle on a créé des protèges tibia connectés, donc pour le tracking d'activité des footballeurs.
Et être ici aujourd'hui sur les Hauts-de-Rouen et dans ce cadre de entrepreneuriat pour tous, et qu'est-ce que vous pouvez apporter à cet événement?
On m'a demandé de participer à cet événement et je pense que voilà, dans l'esprit qui est là aujourd'hui de partager l'expérience, les bonnes comme les mauvaises. Vanter bien sûr le réseau d'accompagnement local qui permet vraiment de faire avancer non seulement des idées mais des vrais projets de création d'entreprise. Donc je suis vraiment voilà, là en tant que témoin de tout ce réseau et voilà, comme je l'ai dit, donc apporter vraiment mon vécu d'entrepreneur depuis déjà bien des années et voilà, susciter le maximum de vocation ou en tout cas d'aspiration pour créer et se lancer quoi. Les gens qui sont là sont des gens qui de près ou de loin s'intéressent à la création d'entreprise, en tout cas ont un esprit d'initiative. Donc moi, voilà, je vraiment c'est au maximum leur apporter des clés de réflexion sur leur projet et des pistes aussi de démarrage ou de développement. C'est ce qui est important à notre niveau. Et je crois qu'il n'y a pas plus aidant que voilà des gens qui ont pratiqué, qui ont subi des échecs, voire des réussites, mais voilà qui sont là pour donner vraiment des éléments de compréhension du système, voire des idées, mais en aucun cas leur donner le mot d'exemple, voilà, je le refuse un petit peu parce que chacun a son histoire à créer, chacun a son parcours et voilà, cette initiative d'entreprise, elle doit pas et doit jamais être une limitation de quelque chose ou de quelqu'un, voilà, parce que chacun a son environnement, a ses propres contraintes et il doit avancer avec ça.
participer à cet événement, est-ce que c'est un moyen pour toi de rendre un peu à la société et voilà.
Plus que jamais, plus que jamais. Je me suis lancé et je cultive tout ça pour aussi le partager, le montrer d'abord à mes enfants, à ma famille et après effectivement à tous mes, ce que je vais appeler généralement mes frères et sœurs et voilà, tous ces jeunes et moins jeunes qui ont envie de se lancer, d'entreprendre. Donc voilà, c'est le partage avant tout, l'exemple, c'est ma première des motivations.
Toi en tant qu'organisateur, est-ce que tu es satisfait ?
Alors je suis super satisfait, c'est un événement qui a mis du temps, en tout cas à se monter, mais ça en valait la peine. L'objectif c'était de montrer toutes les énergies entrepreneuriales dans les quartiers, montrer que dans les quartiers il y a des créateurs qui ont des bonnes idées, des compétences, et de les faire rencontrer en tout cas le monde qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer, les réseaux d'accompagnement, les banques, les réseaux comptables, etc. Et il y a aussi des témoignages de personnes, on a pu entendre Bakary Camara, Lamine Talakela, des personnes qui viennent des quartiers d'un peu partout, et d'expliquer un peu leur parcours. Je pense que l'objectif est atteint. On a eu énormément de monde sur les Hauts-de-Rouen, donc c'était fort. C'est ce que je voulais, c'est montrer en plein milieu du quartier, au milieu de ce quartier, il y a de quoi faire bouger les lignes.
Est-ce que les jeunes entrepreneurs étaient là et les femmes entrepreneuses étaient là aussi ?
Yes, on a eu énormément de femmes entrepreneuses. D'ailleurs, il y a un atelier juste après, entrepreneur au féminin. Donc elles ont répondu présent. On a aussi un pitch de Naïma Sheba, qui est artisan, donc qui a eu le label artisan d'art, qui va pitcher, qui va raconter un peu son parcours du salariat à l'entrepreneuriat. Et c'était important de la faire témoigner.
On l'avait déjà reçu à la radio. En tout cas, Samy, est-ce qu'il y aura l'année prochaine, il y aura une deuxième édition ?
J'espère qu'il y aura une deuxième édition. J'espère qu'il y en a une deuxième qui sera encore plus grande, plus forte. En tout cas, alors, là, l'objectif, c'est de développer un peu l'entrepreneuriat dans les quartiers. C'est de montrer que c'est possible. Et on va essayer d'accompagner au maximum ces entrepreneurs. Et faire à chaque fois, en tout cas essayer de faire plus grand, plus gros, accompagné par tout le réseau de Radio HDR, merci, car je suis passé la semaine dernière faire la promotion de cet événement, les gens ont répondu présents, vous êtes encore présents, donc merci beaucoup.
C'est un plaisir en tout cas, parce qu'on a l'impression que tout ce que tu touches, tu réussis, alors on est obligé d'être à côté.
Bah merci beaucoup, c'est gentil.
En tout cas, voilà, donc vous avez entendu Samy et Monsieur Camara, donc voilà, qui nous parlaient un peu de voilà, le ressenti de la journée, et je vous promets que demain, donc je diffuse monsieur Lamine Talakela, donc qui était à ce moment-là en plein intervention sur scène. Donc voilà, j'ai enregistré quelques passages demain, je le diffuserai dans le cadre de Emploi Conseil et Formation. Vous allez découvrir son parcours. C'est un gars d'Elbeuf, voilà, qui a osé entreprendre et qui nous parle un peu de son côté. Je viens pas de Paris, mais voilà, et c'est pas parce que j'habite à Elbeuf que je ne peux pas aller aux États-Unis parler de Normandie, parler de d'Elbeuf. Et voilà, faut oser, il n'y a pas de limite, faut juste croire à ce que tu veux faire. Et puis voilà, et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, de vous proposer de partir en musique et puis de revenir avec des collègues dans le studio.
Ce sera avec grand plaisir, mon cher Ousmane. J'en profite pour dire que j'aimerais bien demain, j'espère qu'on arrivera à le faire, mon cher Ousmane, peut-être une petite interview sur le parcours de Madame Inchati, de Madame Lily, qui sont en plein dans les problèmes d'emploi, conseil et formation.
Et pourquoi pas, et mélanger avec l'intervention de Monsieur Talakela.
Exactement,
qui n'est pas rien du tout.
Et oui.
Et donc je vous propose Rachita avec Agatha sur les ondes de la radio HDR, principe actif.
Agatha, tu mens. Je te dis que tu m'as menti. Ah oui, tu m'as bien entendu. Moi-même, ton mari, est-ce que je t'ai demandé de me mentir? Hein? Non, hein? Ton enfant, ton fils là, tout le monde voit bien que c'est pas le mien. Mais comment peux-tu venir me raconter n'importe quoi? Agatha, tu es noire, des pieds à la tête, comme moi. Alors comment as-tu pu mettre au monde un enfant blanc et qu'il soit de moi?
Agatha, ne me mens pas. Agatha, ne me mens pas. Ce n'est pas mon fils, tu le sais bien. Ce n'est pas mon fils, on le voit bien. Ce n'est pas mon fils, même si c'est tien.
Tu crois que je suis complètement fou, hein? Écoute, tu as bien le droit de me verser encore un peu de vin de pain. Et non pas de me mentir. Ton enfant, ça fait plus d'un mois qu'il est né. Et il n'a toujours pas décidé de prendre la couleur locale. Et toi, toi tu soutiens que c'est mon fils là?
Allez, verse-moi à boire. Verse-moi à boire, ça en moi, c'est une bonne affaire. Ah, ma mère. Hein. Ma mère avait bien raison, hein, lorsqu'elle me répétait. Fils, ta femme là, elle t'en fera voir de toutes les couleurs. C'est moi qui te le dis. De toutes les couleurs.
Agatha, ne me mens pas. Agatha, ne me mens pas. Ce n'est pas mon fils, tu le sais bien. Ce n'est pas mon fils, on le voit bien. Ce n'est pas mon fils, même si c'est Dieu.
Enfin, tu as de la chance, Agatha. Tu as de la chance. Parce qu'un enfant qui vient du ciel ou de l'enfer, qu'il soit noir ou blanc ou jaune ou même rouge, un enfant, c'est toujours un enfant. Je te dis que tu as de la chance, hein. Mais attention, ne viens plus me mentir, hein. La prochaine fois, si tu me fais un enfant vert ici, viens me dire qu'il est vert. Ne viens pas me mentir qu'il est noir. Ah. Vous êtes prêts, les amis?
Agatha, ne me mens pas. Agatha, ne me mens pas. Ce n'est pas mon fils, tu le sais bien. Ce n'est pas mon fils, on le voit bien. Ce n'est pas mon fils, même si c'est tien.
Oui, ouais, encore, on va ramasser dans le plat encore une fois.
Agatha, ne me mens pas. Agatha, ne me mens pas. Ce n'est pas mon fils, tu le sais bien. Ce n'est pas mon fils, on le voit bien. Ce n'est pas mon fils, même si c'est Dieu.
De 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Et nous sommes de retour après ce beau voyage musical de Rachita. Et donc voilà, et on va parler de liberté d'internet. J'avoue l'introduction, j'ai pas pu parler de ça au sommaire parce que M. Damien était occupé.
Et oui, j'étais parti chercher du café, moi.
Toi, tu veux nous faire tuer demain. liberté internet, internet liberté. Alors, comment on peut dire ça? Comment on définit ça?
Écoute, je te dirais que justement, c'est un sujet assez difficile à définir et qui pourtant concerne tout le monde. À partir du moment où vous utilisez internet, c'est une problématique qui vous concerne. Donc, dans ce cadre-là, puisque moi-même je n'étais pas expert, je me suis fait aider par un auditeur qui s'y connaît. Donc, on a été voir Vincent Lequartier, qui est ingénieur en informatique et également militant de l'association Free Software Foundation Europe, un nom fort complexe à prononcer. Donc, et on a parlé liberté du net, neutralité du net, notamment dans le cadre de l'article 15 qui à l'époque était en train d'être voté, je crois. Il expliquera ça certainement mieux que moi, je pense, mais en tout cas, sachez que c'est quelque chose qui devrait vous concerner.
Découvrons ça tout de suite.
Je m'appelle Vincent Lequartier, je suis ingénieur en informatique et je suis membre d'une association qui s'appelle la Free Software Foundation Europe, qui est une association qui défend le logiciel libre, la liberté des citoyens, notamment sur le numérique. Et donc pour ça, en fait, on travaille sur tout ce qui est logiciel libre, effectivement, et puis pas mal de tâches à la fois politiques et légales, notamment. Et donc à côté de ça aussi, je suis développeur pour Mozilla, du coup, en tant que bénévole.
Très bien, donc aujourd'hui nous allons parler liberté du net. Eh bien, commençons par quelques définitions. Qu'est-ce que la liberté du net?
Alors la liberté du net, c'est un peu comme toute la liberté en fait. C'est juste la possibilité pour tout le monde d'avoir accès au même service, de pouvoir le consulter quand ils veulent. Et donc ça impose pas mal de fondamentaux en fait. Il y a notamment la partie accessibilité. Il faut que le net soit accessible à tout le monde en fait. Donc peu importe si t'es malvoyant, peu importe si tu es sourd ou alors si tu parles pas forcément anglais, parce qu'il faut savoir par exemple que sur internet il y a beaucoup de pages qui sont en anglais, il y a beaucoup aussi de gens qui ne parlent pas anglais, notamment en Asie ou même en France, ça pose un vrai problème aussi. Donc la liberté du net, c'est vraiment la possibilité d'accéder le net, peu importe d'où tu viens, peu importe aussi ta condition physique, et c'est de pouvoir y accéder tout le temps en fait, et t'as aussi une question de prix aussi, notamment sur la liberté du net, parce qu'il faut savoir que en fait, les pages internet prennent de plus en plus de place, en fait le net se complexifie, c'est-à-dire qu'en fait si on prend par exemple la taille des pages de Facebook, et bien en fait au fur et à mesure du temps les pages s'alourdissent parce qu'en fait elles sont de plus en plus complexes, et donc du coup bah, en fait, bah, par exemple pour les citoyens français bah, c'est pas vraiment un problème parce qu'en fait ils ont vraiment un forfait. Donc du coup, peu importe bah, la taille qui est occupée par les données, c'est pas beaucoup plus cher pour eux ou ça leur prend pas beaucoup plus de temps pour charger les pages. Par contre, bah, si vous vivez dans un pays en voie de développement et que effectivement il y a des problèmes avec Internet ou alors vous payez directement au kilo-octet ou au méga-octet, bah là par contre la différence se fait sentir et donc ça pose des vrais problèmes dans certains pays en voie de développement. Donc voilà, la liberté de l'internet, c'est un peu tout ça. C'est aussi le fait de ne pas restreindre le contenu des sites internet. En fait, c'est le fait aussi que tous les sites sont égaux. C'est-à-dire qu'en fait, je suis libre de pouvoir consulter le site que je veux. Il y a certains sites, par exemple, on pourrait dire, bah, vu qu'ils sont beaucoup consultés, on va les privilégier. En fait, on va dire, bah, par exemple, je sais pas, YouTube, par exemple, on pourrait dire, bah, ça aura plus de valeur que, je sais pas, mon blog à moi, par exemple, parce que YouTube a peut-être des milliards de fois de vues en plus que mon blog par jour. Et donc, les opérateurs pourraient dire, bah, puisque c'est comme ça, on va favoriser les sites qui sont les plus vus pour qu'ils aient plus de bande passante et que ce soit plus rapide. Donc la liberté du net, c'est aussi cette notion d'égalité entre tous les contenus qui sont sur Internet. Dans le sens où c'est super important qu'il n'y ait pas de... les opérateurs ne puissent pas choisir pour vous, en fait, quel site vous pouvez consulter. Donc c'est être libre de choisir le contenu que je consulte, c'est être libre aussi de pouvoir y accéder quand je veux et peu importe ma condition.
Ça, c'est la fameuse neutralité du net dont on parle beaucoup sur Internet ces temps-ci.
Tout à fait. Donc la neutralité du net, donc on en parle beaucoup. On en parle aussi vachement aux US parce que c'est un sujet qui est vraiment régulé par la FCC aux États-Unis et donc qui a un impact considérable sur aussi nous, notre vie en tant qu'Européens, vu qu'en fait l'Europe suit vachement les US pour la législation maintenant sur Internet. Et donc du coup, c'est très bien que la neutralité du net a été préservée. Donc en fait, aux US, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la FCC qui a voulu modifier ces règles-là. C'était à cause de Comcast et de pas mal d'entreprises aux US qui ont voulu, pour leur intérêt, bah, casser un peu ce concept de neutralité du net en s'appuyant sur les différentes lois pour créer des amendements à celle-ci. Donc la neutralité du net a été cassée aux US par la FCC. Cela dit, en fait, c'est pas vraiment un problème vu qu'en fait, d'un point de vue législatif aux US, après ce sont les États qui ont quand même pas mal de pouvoir et donc du coup, dans la majorité des États, ils ont dit, bah ok, bah au niveau national, la neutralité du net qui est cassée. Par contre, nous, on peut la restaurer en tant qu'État. Et donc du coup au final c'était pas vraiment un problème. Cela dit, c'est toujours un combat qu'on doit de toujours s'y intéresser, parce qu'en fait la neutralité du net, c'est tellement important, et en fait c'est tellement un gagne-pain de vouloir la casser pour certaines entreprises qui vont forcément recommencer. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bah ok, bah, on a perdu cette fois-ci, bah dans deux ans on va recommencer en fait. Et c'est souvent le problème avec les législations, que ce soit aux États-Unis et aussi en Europe, où les entreprises ou alors différents lobbies vont dire, bah ok, bah la loi elle va pas passer. Pas grave, on commence dans 2 ans, on commence dans 3 ans, il va y avoir des nouvelles personnes qui vont être au pouvoir ou des nouveaux représentants des citoyens. On va recommencer, on va voir ce que ça donne. De toute façon, ils n'ont rien à perdre quelque part.
Très bien, donc on comprend bien que c'est un sujet important, mais en tant que citoyen, on peut se sentir un peu perdu par rapport à tous ces enjeux complexes et qui dépendent beaucoup de juridictions et non pas d'actions individuelles. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour défendre sa liberté mise en danger tous les jours ?
Alors pour les citoyens, je pense que déjà le plus important, c'est de se renseigner. En fait, il y a beaucoup d'espaces en ligne et d'espaces sur Internet qui permettent de se renseigner en tant que personne. Donc ça passe par exemple en France par beaucoup d'associations. Par exemple, pour en citer que deux, il y a la Framasoft. Donc si vous allez sur le site framasoft.org, il y a pas mal de contenus qui permettent justement de se renseigner sur tous ces concepts de neutralité du net. Et après, il y a aussi l'April, donc april.org, qui est aussi une autre association française qui défend vraiment les valeurs dont je parlais, donc de neutralité du net notamment, mais aussi d'autres sujets qui sont en rapport vraiment avec comment on consulte et comment on utilise de la technologie en tant que citoyen. Et après, pour citer une troisième association, il y a aussi la Quadrature du Net, qui a vraiment une action légale, juridique aussi, qui est vraiment sur des dossiers et qui éclaire vraiment l'actualité du net sous un œil vraiment intéressé accès et qui peut être utile pour les citoyens. Le meilleur moyen après de se renseigner, c'est aussi d'étudier le sujet soi-même, c'est voilà, de commencer un peu à fouiller ce qui se passe sur Internet, se regarder aussi, tout est disponible en fait. L'avantage d'Internet, c'est que, encore une fois, c'est consultable, ça demande pas vraiment beaucoup de moyens. À partir du moment où on a une connexion, on a un accès à un immense sujet de connaissances, c'est immense Internet, on peut se renseigner, on peut visiter plein de sites différents. Il ne faut pas hésiter à s'intéresser au sujet. Ça fait peut-être un peu peur au début parce que voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire peur. En fait, c'est numérique. Donc quelque part, ça n'existe pas. Ça a pas vraiment de... Il y a plein de concepts qui sont différents. Le concept de serveur, le concept de comment ça marche en fait, comment marche Internet, comment ça se fait qu'avec mon navigateur, je peux voir des sites. Ça demande de comprendre certains fondamentaux qui sont quand même assez simples, mais qui a quand même une légère barrière qui n'est pas forcément simple à franchir au début, mais voilà, je pense que c'est un sujet qui vaut vraiment le coup. Il faut vraiment que les citoyens s'y intéressent, et je pense que c'est un sujet qui doit être de plus en plus abordable pour tout le monde, parce qu'en fait ça nous concerne tous. Enfin, on a tous Internet maintenant, et il y a de plus en plus de choses qui se passent vraiment avec Internet, avec le numérique, et je pense que c'est vraiment un devoir pour les citoyens de s'y intéresser en fait, et de comprendre comment ça se passe pour ne pas se faire avoir en fait, et vraiment être au courant. Je pense que c'est important, ouais.
Des actions juridiques sont menées tous les jours par des gens des associations dont vous parliez pour défendre la liberté du net. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que il doit avoir une autorité internationale par rapport à ce sujet-là, qui ferait donc autorité sur les lois nationales américaines ou européennes, qui ferait une espèce de passe-droit et qui permettrait de s'affranchir des problèmes dont vous parliez entre les États américains, entre l'Europe, etc. Et peut-être qu'il pourrait s'affranchir d'une pression des entreprises dont vous parliez juste avant.
Si je peux me permettre de m'intercaler, en plus j'avais noté que l'ONU avait un service dédié spécifiquement à la thématique, je crois, des données, la liberté d'internet, ceci cela, qui s'appelle l'OMPI. J'avais noté que c'était quand même une organisation, sauf erreur de ma part, qui était plutôt orientée pour la protection du droit d'auteur plus que pour la liberté d'Internet. Est-ce que vous pensez, comme l'a demandé mon collègue, qu'une véritable institution internationale régulant ce type de législation est cruciale aujourd'hui ?
Oui, je pense qu'après, il y a un long chemin, je pense, à faire pour en arriver là, dans le sens où c'est vrai que maintenant, on a vraiment des lois entre pays qui sont vachement différentes, que ce soit aux US, en Europe, ou même en Asie, où on a des vrais problèmes sur l'interopérabilité des législations, et pour être sûr qu'il y a un accès vraiment qui soit vraiment similaire entre les différents pays, entre les différentes législations. Donc je pense que ce serait bien, mais après voilà, c'est très compliqué en ce moment, hein. Quand on voit par exemple déjà juste en Europe pour se mettre d'accord, on a vu par exemple dernièrement avec le RGPD ou alors avec des lois comme la loi sur le copyright le droit d'auteur, on voit que c'est vraiment difficile de se mettre d'accord, c'est des combats de plusieurs années. Même si on crée quelques institutions internationales pour réguler effectivement Internet au niveau mondial, ce qui aurait du sens d'un point de vue concept, parce que c'est vrai que c'est une ressource mondiale au fond, ce serait vraiment compliqué quoi, pour vraiment mettre tout le monde d'accord. Quoi. Je pense que ce serait un peu utopique en fait. Mais oui, dans l'absolu, ce serait bien, ce serait vraiment utile ouais, pour le coup. Après, je pense qu'on s'en sort pas mal. Par contre, sur voilà, déjà au niveau européen, on a réussi à vraiment créer une Europe assez forte, qui arrive à imposer des lois aux pays, qui arrive à imposer des directives et des régulations. Donc je pense que c'est déjà bien qu'on arrive à créer des lois qui sont appliquées dans tous les pays à la fois. Par exemple pour le RGPD, donc c'est le Règlement Général sur la Protection de la Donnée Européenne, dont vous avez sûrement entendu parler. Et donc c'est un règlement qui est appliqué dans tous les pays de la même manière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'implémentation nationale des lois, et elles ont juste été appliquées comme ça, quoi. C'est-à-dire que le 25 mai de l'année dernière, c'était la même loi pour les 27 pays. Donc je pense que c'est déjà un instrument législatif qui est assez puissant, et donc je pense que c'est déjà bien au niveau européen. Après, pour l'international, je pense que c'est encore compliqué actuellement.
Vous parliez de droit d'auteur. Que doit-on penser justement de la directive européenne sur le copyright, puisque c'est un peu un sujet qui est un peu ignoré par les médias, on va dire, principaux, qui touchent vraiment toutes les tranches de la population. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les populations, on va dire, qui ne fréquentent pas Internet tous les jours puissent entendre parler de ce sujet-là vraiment et se forger leur propre avis en fait.
Alors moi je pense que d'abord il convient peut-être de rappeler un peu exactement qu'est-ce que c'est cette loi justement parce que comme vous disiez il y a vraiment des personnes qui ne sont pas forcément au courant parce que c'est difficile de se renseigner. Donc déjà la réforme sur le droit d'auteur, en fait le concept donc, c'est qu'en fait elle va changer qui est responsable des données en fait qui sont mis en ligne.
Juste pour expliquer les données très concrètement, c'est par exemple les jeux, les photos, les informations personnelles qu'on met sur Internet.
Tout à fait, donc vraiment tout type de données numériques, quoi. Toutes les informations qui sont stockées sur votre ordinateur, tous les contenus qui sont produits en fait par des personnes. Et donc du coup il y a les données, mais il y a aussi les métadonnées qui sont des données sur les données. Très simplement, ça va être des informations sur vos données. Par exemple, vos photos, ça va être la résolution, ou alors ça va être les positions GPS de l'endroit où vous l'avez pris, ou alors ça va être simplement juste l'heure, la date, enfin, genre de choses. Donc c'est aussi important que la donnée, voire plus en fait. Donc ce que je disais sur ces données, c'est qu'en fait ça va changer un peu qui est responsable de la gestion des données. Avant, c'était la personne. C'est-à-dire qu'en fait, si vous mettez en ligne des données, par exemple, vous utilisez YouTube pour créer des vidéos que vous partagez avec vos amis, bah, avant, en fait, c'était vous qui étiez responsable des données. C'est-à-dire que si vous faisiez une violation d'un droit d'auteur quelconque, en fait, et que vous mettez dans la vidéo, je sais pas moi, par exemple, une musique qui est protégée par un droit d'auteur, et bah, du coup, c'est vous qui êtes responsable. C'est-à-dire que... Par exemple, si Universal ou n'importe quelle maison d'édition peut vous dire à vous, en tant que personne, vous faites une violation de copyright, et donc du coup, vous devez enlever la vidéo. C'est comme ça que ça se passait avant. Ce que change la réforme sur le copyright, c'est qu'en fait, elle recentre cette responsabilité juridique sur les entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, c'est par exemple à YouTube... de détecter tous les changements sur le droit d'auteur. Toutes les violations de droit d'auteur doivent être détectées par les plateformes, en fait. Ça change tout, du coup, parce que ça veut dire que c'est plus l'utilisateur qui est responsable des contenus qui sont mis en ligne, d'un point de vue droit d'auteur, j'entends, mais les entreprises. Donc voilà un peu pour une description de... Donc il y a cette information-là. Et après, l'un des articles aussi qui a fait couler le plus d'encre numérique... C'est vraiment l'article 15 aussi de cette législation qui est vraiment aussi important. Donc le concept de l'article 15, c'est qu'en fait il impose à différents médias qui vont récupérer, en fait ils vont agréger toutes les informations qui viennent des journaux par exemple, et ils vont créer des pages qui vont avec plein de listes d'informations de différents journaux. Concrètement, bah, par exemple, bah, il y a certaines entreprises, pour pas les citer, mais qui vont dire, par exemple, bah, on va prendre toutes les informations du Monde, du Nouvel Obs, du Figaro, etc. On va créer une liste, et puis du coup, bah, les personnes peuvent voir un peu leurs nouvelles et leurs news et toutes les infos sur différents blogs, et c'est vraiment ce concept d'agrégateur. Avant, en fait, ils pouvaient faire ça un peu comme ils voulaient. Maintenant, ce que les législations imposent, c'est une taxe, en fait, sur les liens. En fait, c'est-à-dire qu'en gros, maintenant, si vous êtes agrégateur de news, vous devez créer une taxe sur le lien pour lier vers le site d'un publisher de contenu. En fait, toutes les personnes qui vont publier du contenu, ils pourront gagner de l'argent de cette manière, en fait. Et ça réduit un peu le pouvoir des personnes qui agrégeaient avant des données et des articles, en fait. Voilà pour les deux articles du coup de la loi qui sont, je pense, les deux principaux, et c'est vraiment les plus importants. C'est vraiment une réforme d'Internet qui est sans précédent, hein, pour s'en rendre compte. Ça bouleverse Internet en ce moment. C'est vraiment quelque chose d'important.
Donc vous parliez de l'article 13 et notamment du report de responsabilité envers les entreprises comme YouTube par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est un travail titanesque de gestion des données, de détection de ces violations des droits d'auteur? Est-ce que vous pensez que ce report pénaliserait un peu les petits sites ou les petits publieurs de contenu par rapport à des grosses plateformes, étant donné qu'ils n'auraient pas des capacités structurelles, on va dire, pour faire ce travail et du coup se conformer à la loi?
Tout à fait. Donc, moi, je trouve qu'il y a plusieurs problèmes avec ce texte. Donc, l'un des principaux problèmes qu'il va avoir, effectivement, c'est celui que vous avez bien expliqué. C'est-à-dire qu'en fait, pour un peu le reprendre et l'élaborer, ça crée vraiment encore plus de pouvoir pour les grandes entreprises qui vont avoir les moyens techniques et humains pour se doter de moyens en fait d'être conforme par rapport à la législation, parce que la législation du coup demande de créer en fait des filtres qui vont détecter tous les contenus des utilisateurs qui vont être mis en ligne et détecter toutes les violations de copyright qu'il y a dans tous les contenus qui sont diffusés par les utilisateurs. Et donc du coup c'est une tâche titanesque, désolé. Quand on regarde, c'est vraiment quelque chose de super complexe à mettre en œuvre. Et du coup, effectivement, si vous êtes une PME, c'est très difficile de faire ça vous-même, voire même impossible. Et vous devez du coup payer un service qui va sûrement, ou c'est déjà le cas, vendu par des entreprises. Et donc, vous êtes vraiment dépendant d'eux pour ce genre de service en fait que vous allez acheter. Ça va être vraiment une prestation à acheter pour les petites entreprises. Et donc, du coup, ça pose pas mal de problèmes par rapport à la concurrence.
Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que j'aurais en profane absolu, comme j'aime bien le dire sur cette antenne, oublier de vous poser, ou est-ce que oublier d'aborder, pardon, ou est-ce que vous pensez qu'on en a fini pour cet entretien et que je peux partir vers d'autres aventures dans le monde mystérieux de la liberté du net?
Alors oui, il y a d'autres sujets qu'on peut aborder ensemble. Donc il y a aussi, pour revenir un peu sur la réforme sur le droit d'auteur qui est passée, donc il y a aussi d'autres problèmes annexes en fait à ça. C'est que déjà, en fait, il y a un problème de performance. C'est-à-dire qu'en fait, on va imaginer par exemple qu'ils vont créer un algorithme, donc une sorte de programme informatique qui va détecter les droits d'auteur, les violations de droits d'auteur. Donc le programme, il va prendre concrètement la musique que vous avez créée et il va dire, est-ce que oui ou non, il y a une violation de droit d'auteur. Binaire, très simple. Il va même pas dire il y a une violation parce qu'il a trouvé telle musique ou tel machin. Il y en a une ou il y en a pas. Et admettons par exemple, ce programme, il est précis à 1 sur 1000. C'est-à-dire que dans 999% des cas, il se trompe pas. Et vraiment, il va se tromper dans 0,1% des cas. Ça veut dire qu'en fait, il y a une violation de copyright qui n'est pas détecté, ou alors encore pire, il y a une personne qui a créé un contenu tout à fait légitime et une violation de copyright est détectée alors que c'est pas du tout le cas, ce qui est encore pire en fait. Mais enfin, je pense qu'il faut que les gens se rendent compte du nombre de contenus qui est hébergé sur internet. YouTube, c'est des centaines d'heures chaque minute qui sont créées par les utilisateurs. Donc ça veut dire qu'en fait, le programme, pour être bon, il faut qu'il soit extrêmement précis. 1 sur 1000, en fait, c'est pas du tout bon. S'il y a une vidéo sur 1000 où le programme il est pas bon pour détecter des violations de copyright, c'est catastrophique. Donc du coup, c'est un challenge technique pour vraiment détecter des violations de copyright de manière parfaite, quoi. C'est vraiment très complexe. Et après c'est vrai qu'il y a d'autres sujets qui sont assez problématiques, dans le sens où moi je me suis intéressé par exemple aux produits qui étaient développés par les entreprises et qui apportaient des solutions pour répondre à la loi. Donc du coup il y a des entreprises qui ont créé déjà des formules un peu commerciales et qui vendent, et donc ils vous citent un peu la manière dont ils détectent les violations de copyright. Il y en a certaines qui sont assez quand même ridicules, quoi. C'est-à-dire qu'en fait l'entreprise vous marque clairement, nous on va détecter les violations de copyright avec le nom du fichier. Ce qui est, pour ainsi dire, stupide. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez créer un fichier MP3, et c'est sûr que si vous l'appelez, je sais pas, Mylène Farmer, par exemple, on va comprendre peut-être que vous avez copié une chanson de Mylène Farmer. Mais bon, si vous êtes malin, vous allez changer le nom, et puis du coup, l'algorithme n'y verra que du feu, donc c'est un peu stupide. Et après, il y a vraiment d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'en fait... Donc, sans rentrer dans les détails techniques, il y a certains algorithmes qui permettent de créer une sorte d'empreinte numérique d'un fichier. Vous avez un fichier audio, et en fait, ça va créer une sorte de petit code, de code barre, en fait, pour ce fichier. Et en fait, l'intérêt de ce truc-là, c'est... Donc, il y en a deux. En fait, le premier, c'est qu'en fait, on ne peut pas, à partir du code barre, retrouver le fichier. Et en plus, enfin, si on modifie un tout petit peu le fichier d'origine, tout le code barre, toute l'empreinte change d'un coup. En fait, il n'y a aucun rapport entre l'empreinte et le fichier, en fait. C'est vraiment comme ça que ça marche. Et en fait, du coup, il y a par exemple des entreprises qui ont pris plein de fichiers numériques et qui ont créé tous ces codes barres, toutes ces empreintes des fichiers, et qui va les comparer avec ceux qui sont mis en ligne par les utilisateurs. Seul problème à ça, en fait, si je prends la chanson de Mylène Farmer et que je retire ne serait-ce qu'un seul octet, je retire une seule seconde de la chanson, l'empreinte numérique du fichier change totalement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je pourrais outrepasser le filtre de cette manière-là. Cela dit, il y a encore des filtres encore plus avancés,
mais qui sont donc en fait, comment ils marchent, en fait, ils arrivent à peu près à faire correspondre, à faire rapprocher des empreintes numériques de fichiers selon la similarité des fichiers. C'est-à-dire que si par exemple mon titre de musique ressemble à une autre musique qui est soumise à un droit d'auteur, l'algorithme est capable de le vérifier parce qu'en fait les empreintes des fichiers vont vraiment un peu se ressembler. Et donc il va dire, bah, j'ai comparé, et puis là on dirait bien qu'il y a une violation de droit d'auteur. Seul problème à ça, c'est qu'en fait bah, justement ces entreprises fournissent donc à quel point les algorithmes sont précis, à quel point leur produit est efficace. Et donc pour ces différentes méthodes, ils vont mettre un pourcentage. Et en fait, alors, eux, donc les entreprises qui vendent le service le disent eux-mêmes, ils disent qu'ils sont précis entre 80% et 99% des cas. Vous imaginez, 20% d'erreurs. C'est énorme. Donc du coup, c'est un vrai problème. Je pense que techniquement, on n'est pas du tout au point pour répondre à ces mesures-là. En fait, on n'est pas du tout au point pour répondre à la loi. Et ça va poser des vrais problèmes. Et donc du coup, ça c'était vraiment sur l'offre commerciale. Mais il y a un point sur lequel je voulais revenir également sur le copyright. C'est vraiment que ça replace le pouvoir sur les entreprises, encore une fois. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe a créé une loi, par exemple, avec le RGPD, qui est vraiment très sympa pour les utilisateurs. L'utilisateur a un contrôle de sa vie sur Internet, il a un contrôle de ses données, il peut les supprimer lui-même, il peut savoir exactement comment les entreprises collectent les données. Et juste une année plus tard, l'Europe sort une loi qui est à ce point hostile envers les utilisateurs en recentrant le pouvoir auprès des entreprises. Le problème, c'est qu'en fait, c'est vraiment, pour moi, un engin de censure, quoi. L'entreprise, elle a le pouvoir de décider qu'est-ce qui est mis en ligne ou qu'est-ce qui n'est pas mis en ligne. C'est un énorme problème, parce que du coup, admettons par exemple, moi je sais pas, je suis politique par exemple, et je suis opposant au régime en place, et je crée ma campagne, par exemple. Bah, je crée ma campagne sur YouTube, par exemple, et puis bah, je crée mes vidéos de mes, comment dire, bah, de toute ma campagne, quoi. À chaque fois que je fais une action, une sortie publique, je la mets en ligne. Mais qu'est-ce qui se passe si, bah, par exemple, l'algorithme pourrait détecter une violation de copyright en disant « Il y a une violation de copyright, désolé, votre campagne n'est plus disponible. » Donc, il y a ce genre de problématique-là. C'est vraiment un engin de censure pour moi. C'est-à-dire que ça donne vraiment beaucoup de pouvoir aux entreprises. Et trop, quoi. Et on a déjà prouvé par le passé que donner trop de pouvoir aux entreprises, c'était vraiment problématique. Et donc, un des derniers problèmes, je pense, qu'il y a avec la loi sur le copyright, hormis le pouvoir que ça donne aussi aux entreprises, c'est vraiment dans la formulation, en fait. C'est-à-dire que c'est suffisamment flou pour être sujet à interprétation. Donc, du coup, bah, l'entreprise peut un peu voir ce qu'elle veut, quoi. Donc, c'est... Donc, je pense que c'est un sujet qui n'est pas encore suffisamment étudié, en fait, et malheureusement, malgré toutes les informations, toutes les personnes qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord sur les pétitions en ligne, etc., elles n'ont pas été suffisamment écoutées, malheureusement, donc c'est une loi qui est passée, quoi. Donc il y a des gens qui disent que, effectivement, c'est très bien, parce que du coup, ça pourra permettre de retirer certains contenus en ligne qui étaient une violation de droit d'auteur. Donc les maisons de disques doivent être très contentes, mais c'est bien les seules, je pense, quoi. Après aussi, on a évité pas mal de problèmes, par exemple avec mon association, donc la Free Software Foundation Europe. Donc c'est la fondation pour le logiciel libre en Europe, qui a en fait réussi à faire passer des amendements sur la loi du droit d'auteur, parce qu'en fait il y avait un énorme problème avec cette loi, c'est d'avant en fait elle ne faisait aucune omission sur les dépôts de code en ligne. Donc j'explique très simplement. En fait on a des programmes, des recettes. Comme une recette de cuisine, par exemple, qui permet de faire un gâteau, bah, c'est pareil pour un programme. On a une recette qui va dire, bah, là, avec cette ligne-là, et cette ligne-là, et cette ligne-là, ça fait un programme. Et donc, du coup, il y a plein de plateformes en ligne. Par exemple, si vous allez sur le site github.com, donc github.com, par exemple, vous pouvez voir, il y a plein de gens qui hébergent leurs recettes pour leurs programmes en ligne. Et donc, du coup, chacun est libre de les consulter. Chacun est libre de les améliorer lui-même, d'envoyer des corrections, etc. Exactement comme une sorte de recette de cuisine, de partage de recettes de cuisine en ligne, en fait, si vous voulez. Et du coup, en fait, la loi n'omettait pas du tout ces genres de plateformes. Seul problème avec ça, donc du coup, moi, j'écris du code, c'est un contenu devant la loi, et donc du coup, il doit avoir une détection, est-ce qu'il y a une violation de copyright ou pas sur le code que j'ai écrit ? Mais je pense que tout le monde peut se rendre compte à quel point ça n'a aucun sens. Comment vérifier s'il y a une violation de copyright au sein d'une recette de cuisine, par exemple ? Vous vous rendez compte, ça n'a absolument aucun sens. Cela dit, en plus, c'est le code, le concept, c'est qu'il est libre. C'est-à-dire que la recette pour mon programme est libre. Chacun peut la partager, chacun peut l'améliorer, tout le monde est libre de l'étudier, de voir comment ça fonctionne. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de violation de copyright possible, en fait. Il n'y a pas de droit d'auteur, en fait. C'est-à-dire que je suis l'auteur, mais je donne le droit à mes utilisateurs de modifier eux-mêmes ce que j'ai écrit. Donc, du coup, c'est vraiment un problème. Et donc, grâce à mon association, par exemple, on a réussi à créer des amendements sur cette loi qui permet de
de protéger et d'émanciper ces plateformes d'hébergement de programmes de la loi. Par exemple, donc il y a vraiment eu un gros travail d'amendement pour corriger les textes d'origine et pour les rendre moins hostiles pour l'utilisateur et pour Internet et pour le numérique en général.
Voilà. Bah, merci beaucoup, moi j'ai trouvé ça très intéressant.
Le Blabla Mix, 99.1 et 102.4 FM.
Oui, c'était mes débuts de monteur, donc effectivement une fin un petit peu abrupte. Néanmoins, j'espère à toi, cher Ousmane, et à vous, chers auditeurs, que ça vous a permis de vous rendre compte que la question de la liberté du net, et notamment de la neutralité du net, était une question qui nous concernait tous les jours, tous autant que nous sommes, que ce soit pour des questions politiques ou simplement si vous traînez sur YouTube, sur Snapchat, Instagram et tout ça. C'est des questions dont il faut vous emparer avant que d'autres s'en emparent à votre place.
Effectivement, je l'ai trouvé pertinent et pertinent en tout cas pour des amateurs ou des débutants comme nous. Nous ne sommes que des simples consommateurs, on n'est pas assez pointus pour connaître tout ces choses-là. Mais voilà, il donne un regard de savant sur ces questions qui sont assez complexes et aussi un regard de professionnel et des conseils. Et puis voilà, nous avons tous appris. Autour de la table, les filles, donc voilà, il nous reste une minute. Alors qu'est-ce que vous avez compris, entendu, apprécié?
C'est l'heure du contrôle, mesdames.
D'accord, ok, j'ai compris. Vos sourires en disent long. En tout cas, à part vous dire au revoir et puis la suite des programmes sur Radio HDR juste après nous, donc c'est Radio Lomax avec le collègue Jérémy et le 106, voilà, comme on vous l'a dit. Allez assister au concert et puis lâchez vos commentaires sur radiohdr.net. Et puis voilà, sur nos collègues du principe actif, donc voilà, à 20h30, vous avez rendez-vous avec East Time. Et puis voilà, à part vous dire à demain pour les collègues et à demain pour Damien, et puis voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus?
Bon, on peut dire à demain, nos chers amis les auditeurs également, merci à vous d'être à l'écoute du Blabla Mix. Et puis voilà, je te rends l'antenne, mon cher Ousmane, salut à tous.
Ciao.
Salut.
Salut Lily et Enchanté, au revoir, à demain.